avec Éric Emmanuel Schmitt, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Éric Emmanuel Schmitt que nous partons en balade aujourd'hui. Dramaturge, écrivain, cinéaste, philosophe, il est traduit en 45 langues et ses pièces sont jouées dans une cinquantaine de pays. Il nous a donné rendez-vous au Café de la Paix, en terrasse, devant l'Opéra Garnier, par une belle journée ensoleillée, un parfait décor pour un optimiste tel que lui.
Europe 1, 11h30, en balade avec Éric Emmanuel Schmitt, Frédéric Taddeï.
Bonjour Éric Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Nous voilà dans assez loin de Belleville et de l'Afrique, où se situe votre nouveau roman, Félix et la source invisible. On est plutôt, on baigne dans le Napoléon III, là, entre l'Opéra Garnier sous nos yeux, le Café de la Paix.
Ah oui, là, on est chez le baron Haussmann. Mais j'aime bien aussi.
Oui, vous avez un côté un peu Napoléon III, d'attendre que j'y pense.
J'ai pas mis mon gilet, mais bon...
Non, il y a quelque chose de bourgeois et d'optimiste chez vous.
Oui, mais ça doit être l'aspect lyonnais. Il y a toujours un aspect bourgeois chez le lyonnais.
Oui,
tout bourgeois a l'air d'un espèce de sénateur. Après, à l'intérieur, on va dans l'alcôve, c'est plus compliqué.
Mais toujours.
Au départ, il y a toujours une espèce de bonhomie et de façade.
Et la bourgeoisie est complexe, hein, c'est ce qui la rend intéressante,
oui.
Évidemment.
Enfin, tous les êtres humains sont complexes.
Vous croyez?
Ah oui, ça, j'y crois vraiment, oui. Moi, quand j'avais entre 20 et 30 ans... J'ai subi une période d'arrogance où les gens ne m'intéressaient pas, où je pensais que je savais tout, où j'étais déjà lassé à l'avance. Puis j'ai découvert la complexité des êtres et je m'en émerveille tous les jours. Et je pense que, voilà, à 20 ans, j'étais désabusé. J'espère que je mourrai totalement étonné.
J'ai du mal à vous imaginer sombre, tellement je vous vois optimiste. Et ça transparaît dans votre littérature, en général.
Oui, mais mon optimisme, il est spontané, mais il est aussi construit, parce que la vie s'est chargée de l'altérer. Hein. Je veux dire, j'ai aussi vécu des événements douloureux. J'ai connu la mort des autres, la maladie des autres ou la mienne. Enfin, plein de choses qui auraient pu totalement casser cet optimisme. Mais en fait, de spontané, il est devenu construit. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne vois pas de raison de me déprimer ni de déprimer mes contemporains. Et donc, je cultive la joie plutôt que la tristesse.
D'où votre cycle de l'invisible, là. Ouais. C'est le 8e volet, hein, Félix et la source invisible. C'est le 8e volet de cette série qui compte déjà de nombreux best-sellers. Il y a eu le Milarepa. C'était sur quoi, Milarepa?
Le bouddhisme tibétain, la figure de ce moine.
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.
Sur le soufisme, cette très belle lecture et très libre lecture de l'islam.
Vous parlez du livre, de votre livre, là, ou
je parle du soufisme.
Il y a eu Oscar et la Dame Rose, gros, oui, best-seller.
Oui, rencontre avec le christianisme.
Il y a eu l'enfant de Noé.
Le judaïsme.
Le sumo qui ne pouvait pas grossir.
Le bouddhisme zen.
Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus.
Confucius.
Et Madame Pilinska et le secret de Chopin, alors.
L'importance spirituelle de la musique dans nos vies.
Ah oui, la musique, ouais. Toujours importante pour vous, d'où la proximité de l'opéra, peut-être.
Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est spontanément une ville, j'imagine que son centre, c'est même pas une église, c'est toujours un opéra ou un théâtre.
Et Félix, c'est la source invisible, c'est l'animisme, j'imagine.
Voilà, c'est ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre, parce que j'étais un peu victime de la philosophie occidentale qui considère l'animisme comme une puérilité, comme l'enfance de la pensée. Enfin, Auguste Comte disait que c'est le premier âge de la pensée, c'est l'âge animiste, puis après il y a l'âge religieux, puis après il y a l'âge philosophique. Hein, c'est tout le positivisme.
Et vous avez fait l'inverse, vous. Vous avez commencé par des études de philo, et maintenant, vous en arrivez à l'animisme.
Alors, de là à en conclure que je régresse, il ne faut pas exagérer. Mais non, effectivement, je me suis décoincé de ce règne de la raison, de la pure rationalité, et je considère que, oui, l'animisme spontané qui consiste à dire méchante la chaise quand on se cogne à la chaise, c'est débile. Donner des prénoms à ses poupées ou à ses nounours, c'est une chose qui passe. Mais il y a un autre animisme que l'animisme spontané, c'est l'animisme spirituel, l'animisme de civilisation. C'est ce qu'il y a en Afrique, c'est-à-dire un animisme qui est vraiment une façon de comprendre le monde, de doubler le monde visible d'un monde invisible qui est le monde des âmes et des esprits. Et c'est aussi un rapport aux morts, aux ancêtres, qui est plein de sagesse. Donc il y a à la fois une écologie et une sagesse dans l'animisme qui m'intéresse, moi, occidental.
Mais cet invisible auquel vous faites allusion dans le cycle de l'invisible, c'est quoi? Ce sont des forces? Vous le voyez ça comme des forces?
C'est d'abord le sens. Les choses nous arrivent par les yeux, les oreilles, mais nous avons besoin de les habiller de sens. C'est le propre de l'homme. Pour moi, l'invisible, c'est la façon que nous avons de doubler le monde de sens. Par exemple, une naissance, une mort, nous y donnons un sens, un amour, un désamour, une maladie, une guérison. Nous donnons du sens à tout ça. Parce que nous ne pouvons pas vivre ailleurs que dans un univers du sens, au prix même de l'illusion du sens.
C'est pour ça qu'on a inventé Dieu, en général. Hein.
Enfin, inventé ou reçu ou découvert, je ne me prononcerai pas sur la question dans si peu de temps. Mais effectivement, les grandes fournisseuses d'invisibles et de sens sont les religions.
Dans Félix, c'est un petit garçon de 12 ans, ouais. Dont la maman tient un café à Belleville et qui tout à coup tombe dans la dépression. Et il va aller en Afrique pour la ressusciter. Vous y croyez, vous, féticheurs, aux médiums? J'ai toujours l'impression que ce sont les psychanalystes de l'Afrique.
Ah ben, c'est exactement ça.
Ils ont la même vocation, en fait, sauf que le psychanalyste, il va chercher en vous ce qui ne va pas, dans votre enfance, dans vos souvenirs, alors que le féticheur, il va aller le chercher à l'extérieur de vous.
Ça fonctionne, en fait, de la même façon, c'est-à-dire c'est dans le symbolique que ça se passe. Le psychanalyste va vous dire le malaise que vous ressentez n'est que le symptôme d'une maladie autre qui est dans votre inconscient et qui vient de votre histoire, et on va trouver ce qui se masque derrière tout ça. Et le féticheur dit aussi la maladie qui est dans ton corps, c'est pas ta maladie. Derrière, il y a des esprits et des forces qui s'animent. Oui. Donc c'est la même façon de chercher derrière ce qui est devant, chercher dans l'invisible ce qui est dans le visible. Et c'est aussi une relation purement psychologique. Il n'y a pas de médicament. C'est Lévi-Strauss qui avait écrit des très très belles phrases dans La structure élémentaire de la parenté sur justement cette fonction symbolique, montrant qu'au fond le psychanalyste ou le chaman font à peu près la même action. Et il en concluait, ça marche. Mais c'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Et ça marche si on y croit.
Et vous, si vous êtes tombé en dépression demain, vous irez plutôt voir un psychanalyste ou un féticheur?
Je pense que je pratiquerai l'hypnose pour retrouver les souvenirs du passé qui, à mon avis... Parce que je pense que... C'est faute d'avoir traité les traumatismes ou les histoires du passé que souvent on flotte au présent. Je pense que si je me recousais à mon passé ou à des zones que j'ai cru faire disparaître de mon passé, j'arriverais peut-être à retrouver mon chemin. Donc ça passerait par l'hypnose ou la psychanalyse ou le féticheur, c'est à peu près la même chose.
Hein. Éric-Emmanuel Schmitt, je vois arriver votre ami Nicolas Stavy, le pianiste. On va se retrouver dans un instant avec lui.
Frédéric Taddeï et Éric-Emmanuel Schmitt sont en balade ce dimanche et ils viennent d'être rejoints par un proche de l'auteur dans le 9e arrondissement de Paris.
Nous sommes attablés au Café de la Paix, à la terrasse du Café de la Paix, avec Éric-Emmanuel Schmitt devant l'Opéra Garnier et le pianiste Nicolas Stavy vient de nous rejoindre. Nicolas Stavy, vous avez joué du Chopin, du Haydn, du Liszt, du Brahms, vous venez de sortir un album consacré à Gabriel Fauré. Grâce à vous, j'ai découvert les romances sans paroles de Fauré que je ne connaissais pas. Je connaissais celle de Mendelssohn.
Oui, on peut dire que ces pièces sont dans la lignée de Mendelssohn, en effet. Hein. Ces œuvres très narratives, sans texte, mais qui sont d'un tout jeune auteur de 18 ans. Ce sont ses premiers opus au piano. Et on y voit en effet cet univers post-Mendelssohn, mais déjà avec une petite touche d'harmonie où on entend déjà le Fauré qui va se développer tout au long de sa vie et jusqu'au sublimissime 13e nocturne, hein, qui est une espèce de consécration finalement de toute son œuvre. Et voilà, c'est une de ces premières pages et qui est immédiatement contemporaine d'une sonate inédite que j'ai enregistrée pour la première fois. Donc c'est très intéressant, je trouve, de parcourir comme ça l'univers de sa toute première à sa toute dernière dans ce disque.
Je crois que vous montez sur scène avec Nicolas, Éric-Emmanuel.
Oui. C'est l'opéra qui nous a fait nous rencontrer.
L'opéra qui est devant nous, l'opéra Garnier.
En 2012. L'opéra m'avait dit, on aime la façon dont vous parlez de la musique, écrivez-nous quelque chose. J'avais écrit un texte sur Bizet, sur Carmen. Et puis j'avais demandé, est-ce qu'on joue certaines œuvres? Et l'opéra de Paris m'a présenté avec Karine Dehaye, Nicolas Stavy. tout de suite, ça a marché entre nous. Et là, on vient de créer un spectacle qui s'appelle Madame Pilinska et le secret de Chopin, d'après un de mes textes. Et qu'on joue,
un texte du cycle de l'invisible.
Un du cycle de l'invisible, voilà. Moi, je joue les deux rôles, c'est-à-dire moi et Madame Pilinska, la prof polonaise excentrique qui me donne des cours. Et Nicolas est au piano. Et alors, on a commencé à faire ça en province, etc. Et on sera à Paris en septembre, au Théâtre Rive Gauche.
Ce texte, c'est quoi alors le mystère Chopin et c'est quoi le mystère Bizet ou le mystère Carmen? Parce que ça, vous allez l'interpréter au Québec, là, dans
oui,
pas
là,
longtemps.
Je pars au Québec pour le faire pendant deux fois un mois.
Avec une soprano?
Oui, Marie-Josée Laure, qui est une superbe chanteuse black canadienne. Et en fait, Bizet, c'est un inconnu célèbre, parce que tout le monde connaît Carmen. C'est le troisième opéra le plus joué dans le monde.
Il ne l'a jamais su, le pauvre.
Et il ne l'a jamais su, puisqu'il est mort quelques semaines après, persuadé d'avoir raté son opéra, raté sa vie.
Il faut dire que ça avait fait un bide, la première. Ben, il était jeune. Hein.
Il avait 36 ans. Le dossier de presse de Carmen, c'est une anthologie de l'imbécilité. Ah, il faut absolument lire ça. On dit que c'est de la musique cochin chinoise, qu'il n'y a pas un seul air qu'on peut retenir. Enfin, la critique s'est déchaînée. Elle était surtout scandalisée par l'histoire de cette femme libre qui change d'amant plus rapidement que de jupon et qui est complètement indépendante. C'est une figure.
C'est d'ailleurs assez marrant, je trouve. À chaque fois, on accable le public de n'avoir rien compris aux impressionnistes, rien avoir compris à Carmen. Mais c'est la critique qui n'a rien compris. Parce que aux impressionnistes et à Carmen.
Parce que le public, lui, finalement, il allait voir la pièce. Et quand Bizet est mort, ça commençait à prendre au niveau du public. Mais lui, c'était trop tard. Et alors, je raconte sa vie en montrant comment il était une sorte de Rimbaud à 17 ans. Et puis qu'après, l'opportunisme et le carriérisme l'a tué. Jusqu'à ce qu'il se réveille un an avant de mourir pour écrire Carmen. Et là, tout d'un coup, il explose tout parce que c'est de la dynamite absolue.
Et Chopin, alors, parce que Chopin, pour moi, c'est la musique, on parlait de bourgeois tout à l'heure, mais c'est la musique de la bourgeoisie du 19e siècle. Non, mais c'est pas péjoratif hein, pour moi. C'est la musique de l'intimité, presque de l'individualisme, du début de l'individualisme.
Ça, c'est juste. Chopin, c'est un journal intime. Moi, c'est mon journal intime musical. Souvent, le matin, je me lève et alors, heureusement, personne n'entend, mais je joue du Chopin. Et c'est là que je sais où j'en suis. Spirituellement, existentiellement.
Et vous, quand vous en jouez du Chopin et quand vous en jouez bien, ça vous fait quoi?
C'est une musique bouleversante parce qu'elle a quelque chose d'universel. Elle a effectivement cette intimité, mais elle a en même temps cette volonté de passer quelque chose. C'est une musique ouverte vers l'autre. Quand un Brahms, par exemple, s'introvertit, surtout le dernier Brahms, la musique de Chopin parle. Il
y a à ceux qui n'aiment pas du tout la musique classique, qui n'y connaissent rien, qui ne veulent pas en entendre parler. Ben, tout à coup, Chopin, ça les touche.
Ben oui, parce qu'il y a énormément de choses dans Chopin. Il y a l'humilité, il y a la simplicité, mais il y a aussi, pas de la sophistication, une complexité, mais pas de sophistication. Il y a quelque chose qui va droit au cœur. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de fabriqué, il n'y a rien d'artificiel, il n'y a jamais d'artifice chez Chopin.
C'est pas académique.
Il y a de la passion aussi chez Chopin. Il y a pas, on a des fois, on se donne un petit peu l'image de quelqu'un qui était malade, ce qu'il était, de souffreux, ce qu'il était. Mais quand on écoute la quatrième ballade, quand on écoute la troisième sonate, des œuvres finalement tardives, il y a un élan, il y a une force de... Il y a une vitalité absolument, absolument extraordinaire. Donc ça n'était pas que... Le compositeur, pour jeune fille bien élevée, caractère un petit peu cliché comme ça qu'on lui donne parfois et qui est sans doute plus complet, plus complexe, plus varié. Et c'est en ça que moi, c'est un univers que je connais depuis toujours.
Vous avez reçu le prix Chopin d'ailleurs à Varsovie.
J'ai eu un prix au concours Chopin et puis je l'ai énormément joué avant, pendant,
après. Vous jouerez quand la prochaine fois, Madame Pilinska et le... Et mars, le secret de Chopin.
Eh bien, le jour en mars.
Le
21 mars à Lyon, à Caluire, au Radiant.
Vous revenez chez vous.
Ouais, je vais tous les ans à Caluire pour jouer quelque chose. Ouais. Et puis après, on va à Lille pour festival piano. Et puis après, en septembre, à Paris. Ouais.
Vous aimez être sur scène, ça vous
plaît? Ah oui, alors ça, docteur, je dois avouer que c'est une drogue dure que j'aime. Oui, parce que j'adore partager. J'ai l'impression de me guérir de la solitude de l'écrivain. Et puis d'être enfin, de vivre les émotions de façon unanime avec le public. J'adore ça. Je ne pense pas que ça soit un truc narcissique. C'est plutôt d'être le vecteur le vecteur d'une histoire et savoir qu'elle touche directement. Et alors, en plus, être sur scène avec un musicien, surtout avec Nicolas, parce que lui, il prend tous les risques quand il joue. Parfois, je me dis, putain, est-ce que les doigts vont suivre ? Parce qu'il a des inspirations comme ça. Il y va. Évidemment, je me serais cassé les doigts bien avant. Et donc, aucune des représentations qu'on a faites n'est semblable à une autre. Parce que moi, comme je m'entends bien avec l'auteur, je peux dire n'importe quoi.
L'auteur, c'est vous ?
L'auteur, c'est moi, donc je peux improviser. Et lui, il improvise pas la musique de Chopin, mais il y va en fonction de l'ici, maintenant, du moment. Donc, à chaque fois, on a l'impression qu'on se jette dans le feu, quoi. Et on en ressort vivant.
Vous partez où ? Vous avez une petite valise, Nicolas ?
Oui, à Aubernais, à côté de Strasbourg, ce soir. Voilà.
Eh bien, merci d'être passé nous voir. On va continuer notre balade. On va vers où, là, Eric Emmanuel ?
On va au Palais Royal.
Eh bien, allons-y.
Bonne route !
La balade de Frédéric Taddeï et Eric Emmanuel Schmitt continue sur une des plus belles avenues de Paris.
Nous voilà à Avenue de l'Opéra avec Eric Emmanuel Schmitt, une avenue de l'Opéra où il y a peu de voitures. Les policiers ont fermé l'avenue à la circulation. Seuls les piétons peuvent l'emprunter pour l'instant. Il y a des manifestations, ça ne va pas vous étonner.
Bah on est à Paris, c'est ça, j'avais oublié. Merci.
Alors, est-ce que vous connaissez la singularité de cette avenue de l'Opéra ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
C'est le fruit de la volonté, surtout, cette avenue.
Oui, celle de Napoléon III,
voilà,
et du préfet Haussmann. Mais regardez, il y a quelque chose de très particulier. Il y a de très beaux lampadaires qui datent de Napoléon III, mais il n'y a pas d'arbres.
C'est vrai. Et pourquoi ?
C'est la seule avenue parisienne qui n'est pas plantée d'arbres, mais pour respecter la perspective de l'opéra.
D'accord.
On puisse voir l'opéra. C'est la raison pour laquelle Pissarro, célèbre peintre impressionniste, avait peint nombreuses toiles de l'avenue de l'Opéra. Il était à l'hôtel là-bas et il peignait l'avenue de l'Opéra comme il n'avait pas avant des paysages.
Mais cela dit, je trouve que l'Opéra lui-même est comme, présente à la fois la flore et la faune, quoi. C'est-à-dire il remplace bien la nature tellement il est baroque, tellement il est varié, tellement il est incroyable.
Maintenant que vous montez sur scène régulièrement, Eric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous repenser différemment le travail de tous les acteurs qui ont joué vos pièces?
Ah oui, je les admire encore plus qu'avant. Parce que je sais à quel point il faut faire descendre profond un texte en soi pour arriver à être juste, pour arriver à donner l'impression qu'on l'invente, pour ne pas exécuter quelque chose, mais simplement le ressentir, le vivre, et tout d'un coup, les paroles arrivent par-dessus. C'est vraiment un travail d'incubation énorme qui demande d'être complètement dévoué à ce qu'on fait.
Vous aviez réussi à faire revenir au théâtre Alain Delon, ouais, dans Variations énigmatiques. Comment ça s'est passé avec Alain Delon ?
Oh, incroyablement facilement.
Parce mais que non, il y a plein de gens qui disent que c'est comme ça.
Exactement, c'est-à-dire je lui ai envoyé... En fait, pour dire la vérité, j'avais écrit la pièce et le metteur en scène, Bernard Murat, avait pensé à deux autres acteurs et je lui avais dit non, je le sens pas, etc. Moi, je pense à Alain Delon. Et puis, bon, c'est lui qui commande, il envoie le texte à ses deux acteurs qui disent « je sais pas », etc. Je lui dis « bon, on arrête avec les chochottes, maintenant tu l'envoies à celui dont je rêve quand j'écris que je lis ce texte ». Et on l'a envoyé à Alain Delon un vendredi matin, le vendredi à minuit, j'avais un coup de téléphone « allô, c'est Alain Delon ». J'ai pas cru que c'était une blague parce que j'étais suffisamment naïf et candide pour me dire « bah voilà, mon rêve se réalise ». Et on a parlé pendant une heure de ce texte, de l'histoire d'amour qu'il racontait. Il m'a dit, voilà, je vais la jouer. Attendez-moi un an, parce que je ne serai pas libre avant un an. Et tout Paris, après, m'a dit, il ne le fera jamais, il aura trop peur, il n'osera jamais remettre en question son statut de star pour affronter le public. Et il l'a fait, et magnifiquement.
Il l'avait fait avec Francis Huster d'abord, puis avec...
Stéphane Fraisse.
Avec ensuite. Stéphane Fraisse. Et finalement, quand on changeait de l'un à l'autre, ça changeait le sens de la pièce. Est-ce que vous l'aviez remarqué ?
Parce qu'il y avait un jeu de cache-cache avec Francis Huster, alors qu'avec Stéphane Fraisse, il y avait presque une histoire d'amour plus évidente. C'est-à-dire que le journaliste que jouait Stéphane Fraisse, on voyait qu'il était absolument en admiration au minimum et perdu devant cet écrivain qu'il venait visiter, qui était joué par Alain Delon.
C'est drôle comme l'interprétation, sans changer une ligne, hein,
ouais,
peut changer une pièce.
Ben, quand les acteurs trichent pas, ouais. C'est-à-dire quand ils apportent ce qu'ils sont profondément, ils apportent quelque chose à une pièce.
Oui, mais en même temps, pour l'auteur, c'est bizarre, on peut se sentir trahi par moment.
On l'est parfois. Si on n'est pas trahi, on est parfois déçu. Parce que ça
jusqu'au dernier moment, vous pouvez interdire la représentation.
Je l'ai rarement fait, ça.
Mais on en a le pouvoir.
Oui, on en a le pouvoir, exactement. Non, je refuse, par exemple, les changements de sexe dans mes...
Qu'est-ce que vous appelez les changements de sexe ?
Bah, par exemple, variation énigmatique m'a été proposée en Angleterre plusieurs fois avec deux femmes. Et j'aurais dit non, si je voulais écrire sur la solitude amoureuse de la femme, j'écrirais une autre pièce. Là, c'est sur la solitude amoureuse des hommes. Je n'écris pas la même chose. Respectez ce que j'ai écrit. Mais autrement, j'interviens assez peu. C'est le propre du dramaturge. Il est celui qui fait le plan de la cathédrale, mais ce n'est pas lui qui l'a construit. Il faut laisser l'œuvre aux autres.
Là, en ce moment, il y a forcément une pièce quelque part dans le monde qui est d'Éric Emmanuel Schmitt qui est en train d'être jouée là.
Oui, plein. Bien sûr, j'ai la chance d'être joué dans une cinquantaine de pays. Et puis maintenant, il y a des œuvres qui sont entre guillemets rentrées au répertoire. Il y a des œuvres qui se jouent depuis 10 ans dans des théâtres, 15 ans, 20 ans même parfois.
Vous devez être payé dans des monnaies dont vous n'ignoriez l'existence.
Oui, quand je suis payé.
C'est pas toujours le cas.
Non. Mais c'est bien la première fois où je suis allé en Russie, c'était au début des années 2000. L'ambassadeur vient carrément me recevoir à l'aéroport de Moscou en disant « Vous vous rendez compte, vous êtes l'auteur vivant le plus joué en Russie. » Pas seulement l'auteur français, mais l'auteur vivant le plus joué en Russie. Je lui dis « Écoutez, là, vous m'apprenez quelque chose. » On m'en parlait puisque j'avais plein d'amis concertistes, musiciens qui revenaient de Saint-Pétersbourg ou de Moscou en me disant « Bravo pour ton succès là-bas. » Je dis « Moi, j'ai jamais reçu un centime, un rouble. » De ces pays-là.
Je me souviens, quand je lisais Tintin enfant, il y avait toujours le tout droit réservé, y compris pour l'URSS.
C'est ça.
Ça voulait dire qu'en fait, ils n'avaient jamais touché un rond.
Voilà. Et alors, il avait changé son discours. Les premières soirées qu'il a consacrées pour me présenter aux gens, où il y avait tout le Moscou, tout le Saint-Pétersbourg littéraire et théâtral, la première fois, il a dit, l'auteur Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur français le plus joué en Russie. Et puis après, il a changé son discours et Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur français le plus floué en Russie. Ça s'est arrangé.
Oui.
Voilà, je voulais vous dire, ça s'est arrangé.
On continue notre balade avec l'auteur le plus floué de Russie. Mais avant, écoutons, je m'en fous pas mal, la chanson d'Édith Piaf, puisqu'il y est question, et du dimanche et de l'avenue de l'Opéra.
Ah, parfait.
Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine, je vous jure que le patron il est content. Mes amis se sont mis en colère, c'est pas bien malin ce que tu fais là. Bon ce qu'il faut, mais toi tu exagères, tu verras qu'un jour tu le regretteras. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine. Il y a l'avenue de l'Opéra. Il y a le bois de Vincennes. Quel beau dimanche on a là. Et puis il y a le bal qui vous plante des frissons partout. Il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou. Le reste après tout, je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tout de long se mit à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissée embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là c'est connu, il a pas de cœur. C'est un va-nu-pied, un trait de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi. C'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a ses bras qui m'enlacent. Il y a son corps doux et chaud. Il y a sa bouche qui m'embrasse. Ah mon amant, ce qu'il est beau. Et puis il y a le bal. Quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit bien, rentrons chez nous. Oh l'animal, avec lui j'irai n'importe où, le reste après tout, je m'en fous. J'ai vécu des heures si jolies, quand il me tenait entre ses bras. Je n'aurais jamais cru que dans la vie, on puisse être heureuse à ce point-là. Mais un jour où tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. Je m'en fous pas mal, je peux m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent chantent au fond de mon cœur. Et tous les coins où je passe me rappellent mon bonheur. Et puis à la balle, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux. Parfois j'ai mal, j'ai mon cœur qui frappe à grands coups, ça m'est égal, je m'en fous.
C'était « Je m'en fous pas mal » chanté par Edith Piaf, ça devait être en 46, j'imagine comme ça.
Je sais pas, j'ai bien connu sa mère, Edith Piaf, mais j'ai pas suivi sa carrière à elle.
Ce souvenir pour la suite de la balade de Frédéric Taddeï et Éric Emmanuel Schmitt dans les rues de Paris.
Nous descendons l'avenue de l'Opéra avec Éric Emmanuel Schmitt. Je me souviens, autrefois, c'était vraiment le quartier touristique ici. Il y avait beaucoup de Japonais. Oui. Il y avait les bureaux de la French Line, la compagnie oui. Générale Transatlantique avec ses magnifiques paquebots. Non, le Normandie, c'était la compagnie oui. propriétaire du Normandie, c'était à deux pas d'ici, il y avait toutes les agences de voyage, maintenant il y a de moins en moins d'agences de voyage, et les touristes sont partout dans Paris, plus oui. seulement dans le quartier de l'Opéra.
C'est vrai que dans le passé, c'était pas une avenue, c'était un tremplin, quoi. On venait ici pour partir ailleurs. Moi, je me souviens d'avoir acheté de multiples fois des billets d'avion ou de train.
Là, il y a encore, on est devant Paris Tourisme, ouais. By France Tourisme. Et pas loin d'ici, il y a Drouot, où vous réunissez, vous êtes membre de l'Académie Goncourt.
Exactement, j'en sors. Depuis 4 ans.
C'est plaisant, vous entendez bien avec vos camarades.
Ah oui, il y a un principe de camaraderie auquel on s'astreint.
Vous voulez dire que ça a été pénible pour vous au départ ?
Non,
vous avez été reçu à l'unanimité, de quoi vous
parlez ? Non. Moi j'adore ces rencontres. On est 10 passionnés de littérature, la littérature des autres. On ne parle jamais de nos livres alors qu'on en écrit tous. On s'en parle dans les couloirs à deux. On essaye de lire le plus possible pour découvrir des talents. Je trouve que moi, c'est arrivé à un âge où ça me fait du bien de faire ça parce que moi, ma voie, je l'ai tracée et je continue à la tracer. Je suis lancé. Je peux beaucoup plus facilement me tourner vers les autres qu'à 30 ans. À 30 ans, j'étais beaucoup préoccupé de moi-même. Maintenant, je sais ce que c'est les livres d'Éric Emmanuel Schmitt et je vais continuer à les faire. Donc, je peux vraiment être beaucoup plus attentif aux autres et je suis entouré de gens qui sont comme ça.
Bernard Pivot, vous aviez été dans son émission ?
Ah, beaucoup. Bernard Pivot, il a fait beaucoup pour ma carrière.
Parce que c'est le président de l'Académie Goncourt.
Exactement. Pour lui, j'ai eu une grande chance. J'étais le dramaturge de ma génération. Donc, il m'a même consacré une émission entière une fois.
Vous voulez dire plus que Yasmina Reza ?
Parce que c'est vous qui l'avez dit.
Quand on parle de l'auteur de théâtre français le plus joué dans le monde, on sait jamais c'est Éric Emmanuel Schmitt ou Yasmina.
D'ailleurs, je crois que nous-mêmes, on ne sait pas. Parce qu'on se trouve tout le temps dans des... On se succède parfois dans les théâtres ou dans les villes.
D'ailleurs, je dis français, mais vous êtes belge maintenant.
Moi, j'ai les deux nationalités. Ah. Parce que c'est une addition qui me correspond, qui correspond à ma vie. Je suis français, né en France, et avec une partie de ma vie en France. Et puis, j'ai une autre partie de ma vie qui est en Belgique, ma vraie vie privée. Et donc, voilà, c'est une addition.
Vous aimez bien Bruxelles ?
En fait, je suis beaucoup plus amoureux de Paris que de Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est une épouse. Paris, c'est une maîtresse.
Vous voulez dire qu'ici, vous êtes plus libre ?
D'ici, j'obéis à l'énergie de la ville de Paris. J'obéis. À Bruxelles, c'est ma vie. Je suis plus paisible, je suis plus tranquille. Je peux construire, je peux écrire. Mon énergie à Paris, elle a toujours appartenu à Paris et pas à moi. Pour moi, ce n'est pas une ville d'écrivain. C'est une ville que j'ai... Quand même, quand j'habitais Paris, je quittais Paris, j'allais à Senlis, j'avais une maison de campagne, pour écrire. Je ne peux pas écrire à Paris, je suis trop attiré par tout ce qui se passe autour.
Là, il y a le Conseil constitutionnel
non,
devant
pas ça.
Nous.
Est-ce que ça vous a la Comédie française,
la
oui.
La Comédie française à droite, nous sommes rue de Montpensier, on va passer sous les arcades du Palais Royal pour entrer dans le Palais Royal. Devant nous, il y a les deux plateaux, la célèbre... œuvre de Daniel Buren, qui avait fait tant de scandales. C'est le dernier scandale de l'histoire de l'art. Hein. C'était en 85-86. Les colonnes de Buren commençaient à sortir là où il y avait un parking. Et ça avait fait un énorme, énorme scandale.
Oui, je me souviens.
Et après, on voulait les abattre. Et puis finalement, tout le monde les aime bien aujourd'hui.
C'est harmonieux. Mais on est dans un endroit que moi, j'adore. C'est l'endroit où je vais toujours à Paris.
C'est vrai.
Et quand j'habitais Paris, si j'avais un coup de blues, je venais ici. D'abord, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a un microclimat. Il fait toujours beau au jardin du Palais Royal. Et puis, il y a quelque chose d'harmonieux.
Il y a des enfants qui courent avec leurs parents. Ils sont chinois, d'ailleurs.
Oui.
Et ils montent sur les colonnes.
C'est littéraire aussi, le jardin du Palais Royal. C'est les premières pages du Neveu de Rameau, de Diderot.
Ah bah c'était votre thèse, non ?
Oui, ouais, c'est mon auteur de prédilection. Et ça commence au Palais Royal, où il dit qu'il poursuit ses pensées, comme on poursuit une femme, parce que c'était l'endroit où il y avait la prostitution à cette époque-là. Et il dit « mes pensées sont mes catins ». C'est-à-dire, je suis attiré, je vais jusqu'au bout de l'aventure, puis après, je passe à autre chose. C'était pour définir son libertinage conceptuel.
C'est drôle parce que pour le bac, je passais le dernier jour et j'avais présenté sur ma liste, il y avait plein de textes du Marquis de Sade. J'étais sûr qu'on m'interrogerait sur le Marquis de Sade. Et pas du tout, on m'interrogeait sur le neveu de Rameau de Diderot. Je me suis dit, ils sont vraiment très, très sages. Mais en fait, maintenant que vous me le racontez...
Ah non, c'est pas sage, Diderot.
C'est pas sage, c'est
mais
pas
la
si
différence
sage que ça.
De Sade, c'est joyeux. C'est-à-dire que le sexe est une occasion de jouissance et de plaisir. Il n'y a aucun préjugé qui porte sur le sexe. Tandis que Sade, c'est un moraliste inversé. C'est par rapport à une morale très, très contraignante qu'il se prend plaisir à inventer l'inverse. Vous savez, c'est... Donc, en fait, il est prisonnier de ce qu'il dénonce, comme tous les provocateurs. Le provocateur est toujours aliéné à celui qu'il provoque. Tandis que Diderot, il est libre.
Les coups de baillet que vous entendez sont des travaux. Nous sommes à Paris. Et puis, sinon, il y a les bruits de la pétanque aussi.
Oui, alors ça, c'est pas souvent ici.
Les gens jouent à la pétanque.
Alors, les arbres, c'est vrai, sont un peu torturés par les jardiniers. Et ils sont en garde à vous. C'est pas vraiment ce que j'aime. Mais c'est pour aller avec les façades, quoi. En fait, les arbres se sont habillés 18e siècle.
Oui.
Vous voyez, ils sont en gilet et en habit.
Europe 1.
Eh bien, on se retrouve dans un instant avec Eric Emmanuel Schmitt dans les jardins du Palais Royal.
On rejoint Frédéric Taddeï et son invité du jour, Eric Emmanuel Schmitt, dans le plus grand jardin du premier arrondissement.
Nous sommes dans les jardins du Palais Royal avec Eric Emmanuel Schmitt. C'est ici que Louis XIV jouait enfant. Il avait dû fuir pendant la nuit, pendant la fronde. Ça a appartenu ensuite à la famille d'Orléans. C'est là qu'est né Louis-Philippe, son père. Philippe Égalité en a fait le centre de Paris avec ses boutiques, ses théâtres, ses courses de chevaux, ses cafés, ses salles de jeu et ses prostituées.
Oui.
Les prostituées auxquelles vous faisiez allusion. Il y avait une ambiance du tonnerre hein, autrefois ici. Maintenant, c'est devenu très calme.
C'est vrai que c'est devenu un lieu de retraite alors que ce fut tout le contraire. Il y avait aussi les cours de Lavoisier qui donnaient des cours de chimie.
Ici ?
Ici aussi. Donc c'était aussi un lieu où il y avait la science... Et puis plus récemment, bien sûr, ça a été un lieu littéraire puisque Colette habitait au fond du jardin et Cocteau dans une petite maison.
Entre-temps, il y a Camille Desmoulins qui avait quand même appelé à l'insurrection ici même le 12 juillet 1789. On peut dire qu'il a été entendu. Là, il y a le bassin qui est au centre du jardin. Il est vide, il n'y a pas d'eau. Il y a des chaises autour. Les Parisiens bronzent ou lisent le journal.
Malheureusement, regardez, il y en a assez peu qui lisent.
Vous trouvez ? Il y en a qui écrivent ou qui dessinent.
Je suis un peu effaré par le fait que quand on voit quelqu'un penché sur quelque chose, c'est plutôt sur un téléphone que sur un livre.
Mais sur son téléphone, il lit en général.
Oui, mais...
il lit pas vos livres.
Pas guère épais.
Il y en a qui étaient contre le fait qu'on le lise en livre de poche. Julien Gracq, par exemple, a toujours refusé d'être en édition de poche. Il ne voulait pas être lu en livre de poche.
Oui, moi, je trouve ça totalement bien d'être en livre de poche parce que c'est l'accès aux étudiants. Moi étudiant, je n'avais pas les moyens de m'acheter des livres en première édition. Heureusement qu'il y avait le livre de poche.
Hein. Vous êtes un écrivain populaire, de toute façon.
Ah ben, en plus.
Et vous en êtes fier, j'imagine.
Ah ben, c'est un résultat. Je veux dire, c'est un cadeau de devenir populaire. C'est un truc que je n'avais même pas osé d'ailleurs imaginer. Et ça m'est arrivé quand même bizarrement à travers des pièces sur Dieu et Sigmund Freud, à travers des livres sur Hitler. Je veux dire, j'ai quand même été pris par surprise.
Oui, enfin, c'était un Hitler très différent de celui qu'on a connu.
Oui.
Il avait été admis à l'école des Beaux-Arts de Vienne, donc il n'avait pas exactement la même carrière.
Bien sûr, bien sûr. Ben, il faut quand même apporter des idées nouvelles pour renouveler les choses. Mais moi, l'aspect populaire de ma carrière... continue à m'étonner, quoi, parce que j'ai pas des sujets destinés à être populaires. Même Félix et la source invisible, c'est une rencontre vers l'animisme, c'est pas le sujet le plus populaire qui soit. Et c'est...
Bah, attendez, ça a peut-être pas marché.
Ah, ça marche. Je suis désolé.
Il paraît qu'on avait vendu 10 millions de votre cycle.
De ce cycle, oui.
De cycle de l'invisible.
Dans le monde, oui, tout à fait.
10 millions dans le monde. Ouais. Bon, il y a plusieurs romans, il y en a 8. Enfin,
ouais, puis c'est pas fini. Non, non, mais j'ai la chance d'être lu, oui. Ça donne des ailes, hein. Savoir qu'il y a du désir pour ce qu'on écrit, ça porte.
C'est drôle parce que vos parents étaient professeurs d'éducation physique, votre père avait été champion de boxe, votre mère championne de course à pied. On aurait pu penser que vous aviez tout pour devenir un sportif de haut niveau. Et en fait, non. L'école normale supérieure, ouais. L'agrégation de philosophie. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas d'atavisme.
Hein. Pour le sport, pas du tout, non, ça. No sport, comme Churchill. Mais mes parents n'étaient pas des sportifs imbéciles, c'était des gens de culture, quoi. Ils m'ont emmené au théâtre, au cinéma, à l'opéra, au ballet.
Il paraît que c'est en vous emmenant au théâtre, voir Cyrano de Bergerac, que vous avez eu votre révélation.
Joué par quelqu'un qui habitait ici, qui était Jean Marais.
Et c'est là que vous avez décidé d'être auteur de théâtre.
Ouais. De toute façon, toutes les semaines, je décidais d'être quelque chose. Hein,
oui, donc,
archéologue, etc. Donc, mais finalement, j'ai fini par être quelque chose. Et oui, la première fois où on a joué une de mes pièces, La Nuit de Valognes, qui maintenant est au programme du bac, eh bien, ma mère m'a rappelé comment tout ça avait commencé. Elle m'a dit, je t'ai emmené voir Cyrano, t'es ressorti extrêmement heureux, enthousiaste, et tu as dit, je veux faire ça plus tard. Alors ma mère dit quoi ? Je lui dis, je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et alors elle regarde l'affiche et elle dit, tu veux être acteur comme Jean Marais ? Et moi je regarde l'affiche, je vois Edmond Rostand. Je lui dis, non, je veux faire Edmond Rostand. Et finalement, quand Oscar a été joué dans le monde entier, devant des salles qui étaient bouleversées, je me suis dit, peut-être que j'ai réalisé mon rêve d'enfant, je suis arrivé à faire pleurer tout le monde.
Mais
pas,
pleurer
pour désespérer. C'est des larmes qui font du bien, des larmes qui recentrent.
Edmond Rostand, il ne reste que Cyrano, quasiment.
Oui, bah, s'il reste quelque chose de moi, je serais très content. Hein. Enfin, je ne serais même plus là pour le dire, mais ne le voir. Mais on ne fait pas les choses comme ça.
Ne me dites pas que vous ne pensez pas à la postérité. Ça doit vous devez vous demander toujours, est-ce que dans 50 ans, est-ce qu'on me jouera encore ? Est-ce qu'on me lira encore ?
Bien sûr, je me pose la question, mais je n'y réponds pas, à la différence de mes collègues.
J'ai posé cette question à la plupart de vos collègues. Je les ai à peu près tous rencontrés. Et à chaque fois, je glisse une question sur la postérité. Et tous me disent, non, on n'y pense jamais.
Si. Moi, je vous dis, j'y pense, mais je n'ai pas la réponse. Voilà. Et alors, de temps en temps, je veux voir des signes. Je me dis... Tu traverses les frontières, tu pourrais peut-être traverser quelques décennies. Je me regonfle, je me redonne de l'espoir parce qu'on est tous évidemment effrayés à l'idée que ce à quoi on consacre tout son temps, toute son énergie disparaisse, forcément.
Ça peut disparaître provisoirement. Vous savez bien qu'on peut avoir une sorte de purgatoire de 20, 30, 40 ans.
Oui, tout
certains n'en sortent jamais, on les oublie totalement.
Exactement.
La plupart d'ailleurs, et puis quelques-uns reviennent.
Oui, mais il faut réussir sa vie. Il ne faut pas réussir son avenir post-mortem. Donc, moi, je mets toute mon énergie à faire ce que j'ai à faire. Et puis après, ce n'est pas dans mes mains. Moi, je suis l'auteur de mes livres. Je ne suis pas l'auteur de mes succès. C'est le public qui fait les succès. Ce n'est pas moi. Moi, je fais mes livres.
Si vous n'aviez pas été Éric-Emmanuel Schmitt, vous auriez aimé être quel écrivain de votre génération, de votre époque ?
Bah moi, il est toujours vivant. Et même s'il n'est pas de ma génération, il y a un écrivain que j'adore qui s'appelle Gilles Lapouge.
Oui.
Qui a écrit beaucoup d'histoires de pirates.
Exactement, entre autres, il a tout inventé. Hein. Parce que maintenant,
il était le chroniqueur de Bernard Pivot.
Oui, plus, Gilles Lapouge, c'est une espèce d'érudition malicieuse, coquine, joyeuse. C'est un Borges qui aurait encore plus le sens de l'humour. J'adore cet écrivain, je fais tout
Et
ce que je peux.
Il a les cheveux longs, à la différence de vous.
Oui, mais ça...
Belle chevelure.
Moi, je n'ai pas le choix. Mais j'adore cet écrivain... Mais on n'est jamais l'écrivain qu'on souhaite être. Moi, je pensais que je serais un grand lyrique, Jean-Paul Claudel. Bon, parce qu'on commence par admirer. Et puis, quand on se met à écrire, on imite ce qu'on admire. En plus, si on est doué, comme c'était mon cas, j'imite exactement qui vous voulez. Et un jour, je me suis dit, mais c'est terrible, est-ce que moi, j'ai une voix unique à force de pouvoir imiter tous les autres? C'est la fameuse phrase, vous savez, de Cocteau qui dit, à force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. Et je me suis dit, quelle est ma voix? Et un jour, une amie, une très proche, m'a dit, tu voudrais être Paul Claudel, mais si tu étais Sacha Guitry? Et ça m'a libéré, cette phrase. Bien sûr, je ne suis pas non plus Sacha Guitry, mais je me suis dit, bon, je vais à la découverte de l'écrivain que je suis. Deviens ce que tu es. Et maintenant, voilà, je sais ce que c'est, Éric Emmanuel Schmitt. Ce n'est pas forcément l'écrivain que je préfère, mais c'est l'écrivain auquel je prête le plus d'attention.
Comme je sais à quel point vous aimez Mozart, vous l'avez raconté dans Ma vie avec Mozart, et que si ça se trouve, en 1778, lors de son dernier séjour parisien, il avait 22 ans, il est peut-être venu ici, à l'époque, il y avait de l'ambiance, comme on disait. Eh bien, écoutons.
Séjour tragique pour lui, puisqu'il perd sa mère.
Il perd sa mère, qu'on a enterré.
Dans son voyage à Paris.
Là, dont les obsèques avaient été dans l'église Saint-Eustache. Mais écoutons La Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit, un extrait de La Flûte enchantée de Mozart. C'était chanté par Edita Gruberova. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce morceau, La Reine de la Nuit?
Ah bah oui, c'est comment transformer le cri et la plainte en quelque chose de beau, quoi. C'est toujours ce pouvoir de métamorphose de la musique qui dépasse le quotidien pour en extraire la beauté. C'est... Moi, je me nourris de ça.
On se retrouve dans un instant... dans les jardins du Palais Royal avec Eric Emmanuel Schmitt.
Comme chaque dimanche, de 11h à 12h30, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï. Frédéric est accompagné d'Eric Emmanuel Schmitt aujourd'hui.
Eric Emmanuel Schmitt, vous jouez aux jeux vidéo ?
Ah non.
Il y a Assassin's Creed qui se passe dans les jardins du Palais Royal.
Ah bon ?
Ah oui, le 8e épisode. Il n'y avait jamais joué.
Non, ça me déprime. Quand je vois des gens qui jouent à ça, ça me déprime. Je me dis, mais quel temps perdu, quoi. Prenez un bon livre, écoutez une bonne musique.
Quand vous lisez un livre, vous n'êtes pas acteur, vous n'intervenez pas dans le récit.
Si. Je m'infiltre dans tout. Et puis ça se dépose profondément en moi. Je veux dire, un livre, je m'en souviens des années après.
Oui, mais est-ce que vous arrivez à sauver Quasimodo quand vous lisez Notre-Dame de Paris ?
Non, ça, c'est quand j'écris. Voilà. C'est pas quand je lis, c'est vrai. Non, j'ai horreur de toutes ces activités qui permettent de passer le temps. Il ne faut pas passer le temps, il faut le presser, il faut en sortir quelque chose pour soi. Excusez-moi, ça fait vieux ringard, mais je suis désolé. L'autre jour, j'étais dans l'avion, j'étais en train de lire Goethe. Je lisais le théâtre de Goethe que je n'avais pas lu. Et j'étais dans l'éblouissement.
Pour pas être influencé, vous ne l'aviez pas lu peut-être.
Non, mais c'est vrai que ce n'est pas les choses qu'on lisait dans ma jeunesse. Et voilà, je lisais ça, je lisais Egmont de Goethe et je trouvais ça absolument sublime. Et je me retourne, mes voisins, il y en a un qui jouait à la réussite sur son écran. Et l'autre, là, les petites pilules qui descendent, là, Candy Crush. Si je ne peux pas vous dire, j'ai un sentiment de solitude épouvantable.
Vous n'êtes pas si vieux, vous avez dû vivre à peu près 21 500 jours.
Ah, vous avez calculé ça ?
Non, mais il se trouve que je suis un peu plus jeune que vous. Et que...
Ah ouais. Eh bien, je les aurais bien vécues. Oui, je ne me souviens pas de certains, mais il n'y a pas eu d'ennui. Je ne connais pas l'ennui. Je ne m'ennuie jamais.
Il y en a un dont vous devez vous souvenir. Vous aviez 17 ans, vous avez été lauréat du concours général. Ouais. Vous avez été reçu à l'Élysée par Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Vous tout seul ou vous étiez tous les lauréats du concours général ?
Non, tous les lauréats.
Vous étiez nombreux alors ?
Bah ouais, je pense qu'il y avait peut-être 100.
C'était quoi, en composition française ?
Ouais, en rédaction. Composition française, vous avez raison, c'était comme ça qu'on disait.
Et ceux qui disent que vous avez un style un peu scolaire, on trouvait ça vient de là.
Ah, quelqu'un a dit ça ?
On a dit tout.
Oui,
et on a tout dit. De tout,
et
sur
tout le contraire de tout. Parce que généralement, sur le style, je suis épargné. Oui.
Comment c'était alors ?
Bah, j'ai vu la technique des proviseurs qui nous accompagnaient et puis des professeurs qui nous accompagnaient pour choper les petits fours. C'est ça surtout qui m'a le plus impressionné. Moi, avant que j'ai eu le temps de me mettre quelque chose dans le bec, il n'y avait plus rien. C'était fini. J'ai le sentiment d'une grande frustration.
Et le président, vous a-t-il parlé ?
Oui, il m'a serré la pince. Il a dit des choses. Mais mon bonheur, ça a été juste après un autre président. Parce qu'à l'issue de ce concours général, la Fondation de France décide de choisir 7 lauréats et de réaliser leurs rêves. Et ils nous demandent, aux 7 qui ont été choisis, qui rêvez-vous de rencontrer ? Et moi, j'ai dit Léopold Sédar Senghor, le poète, qui était aussi président de la République du Sénégal, la jeune République du Sénégal.
Où se situe d'ailleurs votre nouveau roman ?
Oui, et c'est mon premier rapport avec le Sénégal et premier rapport avec l'Afrique. Et donc, on m'a envoyé 12 jours là-bas, j'ai visité le Sénégal. Et au cœur de ce voyage, il y avait la rencontre avec Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République. L'ambassadeur de France m'emmène jusqu'à la porte, au vestibule. Je rentre. Et il s'attendait à ce que je revienne 10 minutes après. On a discuté pendant 1h30. En fait, je crois qu'il était très touché qu'un gamin de France de 17 ans ait comme rêve de le rencontrer. Et alors, on a beaucoup parlé. Je sais que je l'ai fait beaucoup rire. Je ne sais absolument pas pourquoi, comment.
Bah, vous étiez exotique, tout simplement.
Oui, je pense. Puis j'étais vrai, je pense. Et ça a dû le rafraîchir. Parce que quand on est dans les arcades du pouvoir, on n'est pas souvent en face de gens authentiques ou vrais. Et voilà, j'ai passé 1h30 avec lui.
C'est drôle, pourquoi vous fascinait-il ? Parce que c'était un très bon poète ou parce que c'était un très bon président ?
Ah non, alors le président, je m'en foutais totalement. C'était le poète qui m'impressionnait. Non, je savais par cœur certains de ses poèmes. Et puis, je crois que j'avais découvert, en fait, l'Afrique, la sensualité aussi africaine, cet amour profond de la terre et du corps dans sa poésie. Il y a peu de poètes qui racontent ça.
Ensuite, vous avez enseigné la philosophie au lycée militaire de Saint-Cyr.
Vous imaginez.
Dont la devise est plutôt mourir.
Ah non, mais ça, c'est un truc de fou.
Est-ce que vous repensez parfois à vos anciens élèves qui, depuis, ont combattu en Afrique, au Moyen-Orient
Parfois, j'en ai rencontré, oui, après.
Oui, ils sont au Mali aujourd'hui. Ils ont été... Ils ont été au Koweït pour la guerre du Golfe, en Afghanistan.
Alors d'abord, je vais préciser une chose. Moi, j'ai voulu faire mon service militaire. Je crois que vous trouverez peu d'intellectuels qui ont voulu faire leur service militaire. Le grand jeu à l'époque, c'était s'en dispenser. Et moi, j'ai voulu le faire parce que je me suis dit, si mon pays est attaqué ou si les valeurs auxquelles je crois sont attaquées, il faut pouvoir se défendre. Et il se trouve que... J'ai commencé par mes classes et j'ai découvert que j'étais très bon tireur, j'adorais tirer. Et là, eux, ils ont découvert que moi, j'étais normalien et agrégé de philosophie. Et donc, au lieu de me faire faire un service normal, ils m'ont foutu au collège militaire de Saint-Cyr en me disant, tiens, on va avoir pour 300 francs par mois un prof agrégé de philo qui sort de normal sup. Et donc, je me voilà enseignant au collège militaire de Saint-Cyr.
Mais faire de la philo avec des types dont la devise est plutôt mourir, c'est intéressant, non ?
Bah, alors, je les ai bien provoqués, hein, je dois avouer. Le premier devoir, ça s'appelait la féminité. Et alors, j'ai vu arriver dans les copies une chose que je n'imaginais pas, Jeanne d'Arc. Et donc, quand même, quand on fait des études de philo, on est dans un milieu de gauche avec des profs de gauche. Moi, j'étais élève de Jacques Derrida, etc. J'ai quand même fait mon premier cours de philosophie en sous-officier devant des élèves en treillis. C'est quand même un grand choc. Mais c'était une bonne année. Et je pense que pour eux comme pour moi, c'est un bon souvenir parce que je les rencontre avec le temps et on en parle avec beaucoup de tendresse.
Bon, on va écouter les informations, Éric-Emmanuel Schmitt, et on se retrouve juste après. On continue notre balade.
Balade avec Éric-Emmanuel Schmitt, Frédéric Taddeï.
Nous voilà devant le Conseil d'État. D'un côté le Conseil d'État, de l'autre le Louvre, et au milieu une manifestation de la CGT. Je suis avec Éric-Emmanuel Schmitt. Toujours aussi peu politique, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Non, je suis politique, mais mes engagements sont d'ordre moraux, existentiels, et ils ne trouvent pas forcément d'incarnation politique, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un parti auquel je pouvais me rallier, parce qu'ils ont, le gouvernail qui bouge beaucoup, quoi. Et moi, mes convictions bougent assez peu, donc je ne me retrouverai pas toujours représenté.
Est-ce que vous êtes arrivé de manifester au cours de votre vie ?
Oui. Dans les années 80, quand j'avais 20 ans, j'ai fait plusieurs manifs avec l'ivresse de la manif qu'on peut avoir à ces âges-là. Et je peux retourner dans la rue. En Belgique, je suis retourné récemment pour des problèmes de mœurs aussi.
En Belgique, où vous êtes académicien, vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique. Les académiciens manifestent.
Bah oui, moi j'ai le fauteuil
en
numéro...
France, c'est rare.
C'est vrai, mais en Belgique, tout est possible. C'est ça qui est différent.
Ils se prennent moins au sérieux, les Belges, les académiciens.
Franchement,
aussi.
Ouais, franchement, oui. Il n'y a pas, d'ailleurs, on n'a pas de costume.
Alors, je précise que nous sommes sur la place, on assiste à la manifestation, on ne défile pas.
Hein. Non, non, non. Moi, j'ai un problème avec certaines manifestations, c'est que l'ivresse de la manifestation fait oublier la cause. Et souvent, le bonheur de manifester rend sourd ou fait crier trop fort. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où il faut que le cri s'articule, qu'il y ait un dialogue qui s'engage. Quoi. Ouais. En ce moment, on vit une période où il y a deux sentiments qui s'affrontent. Je dirais un mépris qu'ont les élites pour une certaine partie de la population et qui est inadmissible et qui dure depuis des décennies. Et de l'autre côté, une réponse de cette population qui est une haine des corps intermédiaires, des corps politiques, et une haine des élites. C'est mépris contre haine. Il faudrait vraiment qu'on passe à l'articulation et qu'on discute, quoi. Donc, des deux côtés, on est enferré, quoi. Il n'y a que la parole pour reconstruire un pont.
Dans le mépris des élites auquel vous faites allusion, il y a aussi quelque chose contre les médias, en général. Et là, vous devez comprendre, puisque dans un de vos romans récents, vous-même étiez particulièrement sévère à l'égard des journalistes. Vous les accusiez, au fond, eux aussi, de faire, tout comme vous, récit d'imagination.
Oui, mais c'est-à-dire souvent, je trouve que les journalistes sont des romanciers qui ignorent qu'ils le sont. Vaut mieux savoir ce qu'on fait, quoi. Nous, on sait qu'on raconte des carabistouilles.
Vous vous rendez compte, c'est très grave, parce que justement, étant donné le peu de crédit... Enfin, dont bénéficient les médias aujourd'hui, vous avez participé.
Non, c'est une critique des médias, c'est pas un discrédit.
C'est une sacrée critique.
C'est pas un discrédit, non, mais quand vous regardez des chaînes d'information continue où des événements sont montés en épingle à force d'être répétés, où le discours se nourrit de lui-même plutôt que du réel, quand vous voyez la recherche de la polémique systématique, elle dure une heure, elle dure une demi-journée, elle dure une journée, oh, chouette, elle dure plus, c'est insupportable, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on doit raconter le monde. Le monde, il se raconte pas seulement. Enfin, c'est ce que disait Victor Hugo, quoi. On entend l'arbre qui tombe et pas la forêt qui pousse. Et il faut aussi parler des forêts qui poussent. Il faut aussi parler des grands mouvements, des grandes structures, des choses qui changent. Et pas être sur le spectaculaire, l'accidentel ou l'émotionnel. Et les médias, justement, nous chopent à nous, les romanciers, les dramaturges, les cinéastes, l'événementiel, le spectaculaire, l'émotionnel.
Et la morale.
Et la morale en plus, oui. Donc c'est un peu néfaste, quoi. Ça ne facilite pas la réflexion.
À propos de Victor Hugo, je pensais à Chose Vue. Quel est ce proverbe africain que vous avez mis en épigraphe de...
À force de regarder, tu finiras par voir.
Voilà, c'est au début de
Félix et
Félix
la source
et la invisible.
Ah, merci, monsieur.
Vous voyez ?
Voilà, la philo au pouvoir.
Et oui, quand on vous fait votre portrait, on dit dramaturge, romancier. Certains disent, ajoute cinéaste d'ailleurs, parce que j'avais réalisé des films.
Ouais.
Et certains disent même acteur maintenant.
Bah
mais
oui,
on
ne
dit jamais
scène.
Philosophe. Ce monsieur qui vient de vous parler, vous a traité de philosophe.
Oui, parce que mes livres...
Vous l'a traité en philosophe, mais pas traité de philosophe.
Mes livres, oui. Mais en plus, c'était louangeur. Non, mes livres véhiculent des problématiques philosophiques et parfois... dégage des axes de réponse, mais je ne fais pas œuvre de philosophe, parce que je n'ai pas décidé d'écrire de la philosophie. C'est pas parce qu'on est professeur d'anglais qu'on devient anglais. Hein.
Non.
Moi, j'ai été professeur...
Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de philosophie qu'on appelle des philosophes.
Oui, tout à fait. Or, ce sont souvent des historiens de la philosophie.
Ou des profs.
Et c'est très noble, et c'est très important.
Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas bâti de système philosophique.
Voilà, et moi, je n'ai pas d'œuvre philosophique. J'ai une œuvre littéraire traversée par la philosophie, ou irriguée par la philosophie, mais c'est moi, jamais je ne me présenterai comme un philosophe.
Il est très très long ce cortège. Hein.
Oui, on dirait, oui. On n'a pas vu le début en plus.
C'est toute la rue de Rivoli qui est prise, ils vont vers la Concorde. Ils sont très très nombreux. Et très paisibles, très calmes.
Très calmes.
Vous parliez d'ivresse de la manifestation, visiblement ils n'en sont pas encore là.
Non, mais je ne suis pas
là,
en train...
Là c'est l'apéritif, là.
Non, mais je ne suis pas en train de parler en général de la manifestation. Moi, j'aime cette culture française qui fait qu'on fait aussi de la politique dans la rue. C'est assez unique. Hein. Par exemple, en Belgique, ça ne se fait pas comme ça.
C'est de moins en moins bien vu. Hein.
Non, enfin, ce qui défigure ces images-là, c'est les gens qui viennent casser au milieu ou c'est les cris qui n'arrivent pas à l'articulation. Ça dessert les causes que ça veut servir. Mais j'aime cette idée que ce pays se construit comme ça, aussi sur des rapports de force. Parce que c'est ça, la politique. C'est l'art d'ajuster les forces. Et parfois, il faut rappeler au pouvoir qu'il faut ajuster les forces. Par contre, il y a une chose que je ne supporte pas. C'est quand je vois, par exemple, là, il n'y en a pas aujourd'hui, mais ces derniers temps, il y a eu Macron démission.
Là, il y a d'ailleurs 100 Macron.
Voilà. Alors là, pour moi, c'est un déni de démocratie. C'est Macron discussion, oui. Mais Macron démission, non. On ne doit pas balayer la République, on ne doit pas balayer le vote de tous les citoyens français. Là ça pour moi, c'est inaudible. Ça me met vraiment en colère.
Oui, mais il y a toujours eu ça. Mai 68, il y avait De Gaulle démission.
Oui, insupportable aussi.
C'est un slogan.
Mais non, mais c'est tellement manquer de réflexion politique que de dire on va déboulonner et ça va changer. Non, il faut discuter, il faut engager un dialogue. C'est ça qui est important.
Europe 1. Eh bien, nous allons traverser la manifestation, passer sous les guichets du Louvre et à tout de suite.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et Éric-Emmanuel Schmitt. On les rejoint d'ailleurs tout de suite devant un célèbre bâtiment du 1er arrondissement de Paris.
Nous avons réussi à traverser la manifestation et nous voilà devant la pyramide du Louvre qui trône au milieu de la cour Napoléon avec ses 673 panneaux de verre et non 666, comme l'avait dit l'auteur du Da Vinci Code.
Entre autres conneries.
Et une pyramide qui, elle aussi, a fait couler beaucoup d'encre. Hein. On parlait tout à l'heure des colonnes de Buren.
Moi, j'ai tout de suite aimé cette pyramide.
Oui.
Ah oui.
Mais c'est-à-dire qu'on nous l'avait vendu comme transparente et qu'on continuerait de voir le Louvre, et évidemment, il n'en est rien.
Non, ça, c'est vrai. Mais moi, là, surtout venant de traverser la manifestation, on a vraiment l'impression qu'elle est là depuis 3000 ans. Quoi. Elle est...
ouais. Vous vous souvenez que Jean Dutour avait dit que c'était un véritable appel à l'insurrection.
Tout le monde ne reçoit pas les mêmes voix.
Jean Dutour, écrivain, aujourd'hui disparu, mais qui à l'époque était très remonté contre...
Oui, mais je comprends, parce que... Parce que c'est marié des époques et des genres qui sont extrêmement différents. Mais moi, je trouve le mariage réussi. Ce mariage-là ne m'a jamais gêné. Autant vous ne me ferez pas dire du bien de Beaubourg.
Le centre Pompidou.
Voilà, autant cette pyramide me ravit.
Et le Louvre, vous aimez bien l'architecture, tout ça ? Je suis sûr qu'il a été très critiqué en son temps.
Bah, franchement, moi, je trouve la pyramide beaucoup plus belle que le Louvre.
Hein. Ouais. Si vous voulez mon avis. Il n'est pas très, très beau. Le
non, il n'est pas très beau. Il est majestueux, officiel.
C'est le plus grand musée du monde.
Imposant. Alors, après, à l'intérieur, c'est une merveille. Mais je veux dire, le bâtiment en soi n'est quand même pas un chef-d'œuvre pour moi. Enfin, pas ici, en tout cas.
Eh bien, nous allons nous diriger vers le Café Barly, qui se trouve sous les arcades du Louvre. Vous avez donné rendez-vous à votre ami Jean-Philippe Daguerre ?
Oui. Voilà un dramaturge, un auteur théâtre comme j'aime.
Metteur en scène surtout.
Hein. Metteur en scène, mais il vient de surgir aussi comme écrivain avec sa pièce « Adieu, Monsieur Hoffmann » qui a reçu plein de Molières à la dernière cérémonie de Molière qui est une pure merveille d'intelligence et d'émotion. J'ai lu ses deux pièces suivantes, je vais les monter.
Et les dans votre monter. Théâtre ?
Oui, exactement.
De la rue de la Gaîté ?
Je suis tombé amoureux de cet auteur, je le dis carrément. Il a une belle humanité, il a un magnifique talent d'homme de théâtre. Vous savez, c'est rare, hein, des dramaturges, il n'y en a pas souvent. Quand il y en a, il faut les soigner.
Donc le Café Barly, avec sa vue exceptionnelle de la terrasse sur la pyramide. Et ses serveuses, comme le dit la serveuse.
Exceptionnel.
Il est là. Bonjour. Beau temps. Hein.
On se croirait sur les pistes de ski. Là.
C'est vrai. Hein. Donc, il me parlait de vos pièces de théâtre dont vous êtes l'auteur. Moi, je me souviens que vous êtes surtout un metteur en scène de Molière, de Corneille, de Cyrano de Bergerac aussi, d'ailleurs. Hein, dont nous parlions tout à l'heure. Vous êtes mis à l'écriture, non ?
Ben oui. J'avais envie. À un moment, je me suis dit, tu arrives à un âge où il faut que tu essayes quand même d'écrire, voir ce que ça peut donner.
Donc, c'est un vice français.
Voilà. J'ai fait un test. Voilà. Donc, je me suis dit, je m'y mets, puis ça s'est bien passé.
Oui,
donc du coup,
dire.
Ça m'a donné envie de continuer.
C'est la combientième représentation de Adieu, Monsieur Hoffmann ?
À peu près à 400, là.
400 représentations, c'est exceptionnel.
Ah oui, c'est beaucoup ?
Ah, c'est énorme.
Surtout... Je ne sais pas, autrefois, on jouait une pièce 1000, 1500
fois. Oui,
mais justement,
fois. À notre époque, mais de toute façon, il va arriver au 1000.
On a bien l'intention d'y arriver aussi, hein, comme autrefois.
Voilà.
C'est l'histoire d'un bijoutier, si je me souviens bien, juif pendant la guerre, qui confie son magasin à deux non-juifs qui, en échange, lui demandent de faire un enfant à la femme de celui-ci parce que le mari est stérile.
Parfaitement bien résumé. D'ailleurs, je vais le noter parce qu'on n'arrive jamais à donner le pitch correctement. C'est exactement le pitch,
oui,
parfaitement bien résumé.
Moi, je
ne
vais pas si loin dans le pitch. Moi, je dis que c'est l'histoire d'un bijoutier qui demande à son employé, pendant la guerre, de tenir sa bijouterie pendant qu'il, lui, va se protéger à la cave. Et en échange, son employé lui demande quelque chose de bien étrange et surprenant.
Oui, mais si on veut faire venir du monde tout de suite, il vaut mieux faire le premier pitch. Je comprends le suspense, mais les gens, ils ont besoin d'un truc tout d'un coup, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer.
Il veut arriver à ses 1000 de représentations.
Ah oui, il arrive à 500.
On a dit 1500.
C'est une pièce qui va jouer dans votre théâtre ?
C'est une pièce qui se joue depuis septembre au théâtre Rive Gauche et qui, à cause de son immense succès, vient de passer carrément à 21h. Elle s'est jouée avant 19h. Donc elle se joue à 21h au théâtre Rive Gauche.
Et c'est votre théâtre, donc.
Oui, oui, oui.
Rue de la Gaîté.
Bah, moi, il y a une chose très heureuse qui se passe en ce moment, c'est que j'ai pris un théâtre et les gens croyaient que c'était pour jouer mes pièces. Comme si j'avais besoin de prendre un théâtre pour avoir mes pièces jouées.
Quel prétentieux.
Mais non, bah, enfin, j'ai fait toute ma carrière sans posséder de théâtre, je veux dire. Et l'aventure théâtre, c'était autre chose. L'aventure de théâtre, c'était de faire monter des pièces, c'était d'avoir d'autres comédiens, d'autres pièces, etc. Et rencontrer cette année deux auteurs qui m'ont réjoui, c'est-à-dire Jean-Philippe Daguerre. Et puis d'un autre côté, pour la pièce que nous avons fait avant, qui s'appelait Un mensonge, une vérité, Deux mensonges, une vérité. Le fils de Jean Poiret, Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, qui ont fait des triomphes dans ce théâtre, ça me rend très heureux. Parce que moi, c'est là que j'ai envie d'être. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais j'ai envie d'avoir des aventures théâtrales où je ne suis pas forcément l'auteur, où je peux être le producteur, le directeur théâtre.
Et alors, il est comment en producteur et en directeur ?
Mais au-delà d'être producteur et directeur, c'est surtout un conseiller extraordinaire. C'est vrai que quand vous avez la chance d'avoir Eric Emmanuel qui vous donne des conseils, c'est un peu comme si vous faites du foot et que Zinedine Zidane vous prend dans son équipe, quoi. Donc, tout d'un coup, c'est vrai que moi, au-delà de la discussion de producteur, j'écoute beaucoup l'auteur de théâtre, l'auteur en général. Et puis, c'est vrai que j'ai deux nouvelles pièces que j'ai écrites, que je lui ai confiées aussi, et avec qui, d'ailleurs, on peut le dire, vont être produites par Eric Emmanuel. Et
il vient de me le confier, voilà. Juste
donc,
avant de
je vais être, a priori, j'ai un séjour assez long au Théâtre Rive Gauche, puisque on crée cette année la famille Ortiz en 2019, et après en 2020...
Et vous êtes le metteur en scène à chaque fois ?
Voilà, je suis le metteur en scène et l'auteur, parce que c'est vrai que j'ai du mal, pour l'instant, à confier ce que j'écris, parce que j'écris tellement en pensant à la mise en scène... que c'est, j'ai du mal à lâcher le bébé de l'écriture pour l'instant. J'ai vraiment, j'ai presque l'impression que c'est parce que je pense que je vais le mettre en scène que j'arrive à écrire les pièces.
Il faut toujours se donner des aliments étranges pour arriver à faire ce qu'on doit faire.
Oui, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me considérer comme un auteur. Je me considère plus comme un metteur en scène qui s'écrit une pièce pour la mettre en scène. Bon, maintenant, Eric Emmanuel, il m'a un peu adoubé en acceptant de produire les deux prochaines. Donc, j'ai marqué sur mon CV auteur, metteur en scène et comédien. Mais avant, je ne m'étais pas auteur.
La dernière fois que je suis allé au Théâtre Rive Gauche, il y avait une panne de clim. Je me souviens, en plus, c'était l'été. J'espère que ça a été réglé.
Oui.
C'était il y a 2-3 ans.
Non. C'est épouvantable l'été parce que c'est comme on enchaîne souvent deux spectacles. La salle est très, très chaude parce que 400 personnes, ça fait du monde. Et alors, si la clim, effectivement, déconne... Mais on l'a changé, la clim, docteur. Si c'est il y a 2-3 ans, on l'a changé.
Elle marche très bien. Il y a plusieurs vitesses maintenant. Il y a 4 vitesses en fonction de la chaleur et tout. Donc, c'est très moderne maintenant.
Mais c'est vrai que quand on est le directeur ou le propriétaire du théâtre, on est obligé de régler ces petits problèmes-là. Hein.
Mais attendez, on dirige ce théâtre, mais on n'a pour l'instant pas gagné un centime parce que chaque fois qu'on a un peu d'argent, on refait les fauteuils, on change la clim, on refait les loges.
On paye les droits d'auteur. Ça revient.
Mais en même temps, c'est ça qui est amusant, quoi. C'est d'essayer de faire le meilleur lieu avec les meilleurs spectacles possibles. On est entièrement tourné vers ça.
Cette rue de la Gaîté, d'ailleurs, avec ses vieux sex-shops, ses crêperies et ses théâtres, parce qu'il y en a plusieurs.
J'adore, c'est tellement disparate, cette rue.
Elle porte bien son nom, c'est vrai.
Ouais, elle porte bien son nom. Et puis, y a vraiment, c'est une rue qui est fréquentée, c'est une rue de sortie, quoi. Moi, je le constate maintenant en tant que directeur de théâtre, c'est beaucoup de gens du quartier qui viennent rue de la Gaîté.
Ah, c'est les gens du quartier.
Ah, il y a des gens qui viennent
du monde entier.
Du monde entier, parfois.
La gare est pas loin.
C'est la gare Montparnasse, tous les crêperies. C'est la gare qui allait vers la Bretagne, qui va toujours vers la Bretagne.
Exactement, mais en même temps, il y a un vrai public du 14e, du 6e et du 5e arrondissement.
Vous êtes de Paris ?
Pas du tout. Moi, je suis originaire du Pays Basque par mon père et de Montauban par ma mère. Basco-Tarné-Garonnais, comme on dit. Voilà.
Donc le rugby.
Beaucoup le rugby. C'est vrai, je suis passionné par le sport. C'est ma première passion. Et comme je n'ai pas réussi dans le sport, je me suis converti au théâtre pour retrouver l'esprit d'équipe.
Ouais, c'est un peu la même chose que Eric Emmanuel, dont les parents étaient professeurs de sport.
Ouais.
Et qui, malheureusement, n'était pas doué.
Moi, je n'étais pas doué. Non.
Oui, toi.
Enfin, la question ne s'est même pas posée. Je n'ai même pas fait des performances qui pouvaient permettre de noter si j'étais doué ou pas doué.
On va essayer d'attraper un garçon pour pouvoir commander. Et pendant ce temps-là, on va écouter à cet instant du groupe Catastrophe avec la très jolie voix de Blandine Rinquiel. Vous la connaissez, elle est écrivain. C'est à la fois la chanteuse du groupe Catastrophe et l'auteur du texte.
Elle est très intéressante. Oui.
Elle est très, très intéressante.
Vous êtes là. En train d'écouter cette voix. Vous êtes peut-être dans votre salon, dans la chambre d'un ami, au volant d'une voiture ou bien dans la rue. Dans un parc sans doute, sur une grande avenue, en train de marcher. Assis sur un banc. Maintenant, la nuit est noire. Qu'allez-vous faire ce soir ? Quelque part, l'un de vous s'arrête pour refaire un lacet. Et à cet instant, une ampoule grille sur un corps qui s'effondre. Et à cet instant, deux coups en font l'amour. Et à cet instant, le soleil des Amériques luit comme un gong. Et à cet instant, une femme pense à son premier bain de mer. Et à cet instant, son époux rêve au cimetière. Et à cet instant, six regards s'électrocutent réciproquement. Et à cet instant, l'enfant hurle car il faut vivre. Et à cet instant, dans notre nuit, il y a une lumière.
C'était à cet instant, interprété par Blandine Rinquel et le groupe Catastrophe. On n'a toujours pas trouvé de garçon au Café Marly. Ça devrait pas tarder. On se retrouve juste après.
La balade de Frédéric Taddeï et Eric-Emmanuel Schmitt continue et alors je peux vous dire que tout va bien pour eux.
Nous sommes à la terrasse du Café Marly, il y a un beau soleil, il y a la pyramide, il y a Eric-Emmanuel Schmitt et il y a Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de Adieu Monsieur Hoffmann, pièce qui se joue actuellement au théâtre Rive Gauche d'Eric-Emmanuel Schmitt. Nous attendons le garçon, nous ne désespérons pas qu'il prenne notre commande.
Il s'appelle Godot, c'est pour ça.
Qu'est-ce que vous voulez boire, Eric Emmanuel ?
Alors moi, un chocolat chaud, s'il vous plaît.
Deux chocolats chauds, s'il vous plaît.
Et il y en aura trois.
Trois chocolats chauds, merci. Et alors vous disiez, pendant qu'on écoutait Blandine Rinquel chanter à cet instant, Eric Emmanuel, vous disiez que vous c'était en tant que romancier que vous aviez peur de ne pas être légitime,
oui.
Puisque... Jean-Philippe nous disait qu'il avait peur de ne pas l'être en tant qu'auteur de théâtre après avoir été metteur en scène.
C'est vrai que moi, j'ai commencé par la scène et en 10 ans, j'ai été reconnu, adoubé, reçu je ne sais combien de Molières ou de nominations Molières et puis joué dans le monde entier. Donc, je n'ai pas trop douté du fait que j'étais spontanément dramaturge. Or, j'avais des histoires qui me demandaient de devenir romancier parce que ça ne pouvait pas être des pièces. Et j'y suis vraiment allé à pas feutrer, en hésitant, en recommençant et quand je me suis vraiment transformé en romancier, je suis quand même passé par la scène. J'ai écrit Monsieur Ibrahim, qui est à la fois un monologue scénique et un roman. Oscar et la Dame Rose, qui sont maintenant parmi mes livres les plus lus. Mais je les ai faits pour la scène, parce que je me disais, bon...
Le premier roman, c'était L'Évangile selon Pilate.
Oui, qui était juste avant.
Mais quoi, 9-10 ans après avoir commencé.
Oui, mais j'ai passé 7 ans à déchirer tout ce que j'écrivais et à recommencer... Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais fait qu'obéir aux histoires qui me traversent la tête. Et c'est les histoires qui me disent, tu dois écrire un roman, tu dois écrire une nouvelle, tu dois écrire une pièce. J'ai commencé par les pièces. Quand les histoires m'ont dit qu'elles étaient des romans, je me suis dit, est-ce qu'il y a un romancier au bout de ma plume ? Et je suis parti à la découverte pour voir s'il existait. Puis après, certaines histoires me venaient sous la forme de nouvelles. Je me suis dit, novelliste, c'est très compliqué. Est-ce que je peux être novelliste ? Et j'ai essayé d'obéir. En fait, on croit que je suis un espèce de type qui veut s'illustrer dans tous les angles. Je suis un espèce d'esclave, en fait, qui a passé son temps à obéir à des personnages et à des sujets en se demandant s'il était simplement capable d'être leur scribe ou leur secrétaire. C'est vrai, hein ?
Et parfois, vos personnages se sont plaints après ?
Moi, je pense que certains auraient le droit de se plaindre. Mais il n'y a pas trop de... Enfin, moi, à mes propres yeux, allez, on va se faire un compliment, il n'y a pas trop de déchets.
Voilà. Vous l'avez lu, vous ?
Ah, moi, j'ai lu
Emmanuel Schmitt ?
Oui, ben, moi, c'est L'Évangile selon Pilate qui a été une rencontre... Franchement, j'ai eu un coup de foudre sur ce texte il y a très longtemps, quand il est sorti. Et à partir de là, j'ai beaucoup suivi Eric Emmanuel en tant que spectateur au théâtre. Et puis j'ai lu aussi Oscar et la Dame Rose, beaucoup de romans, beaucoup de pièces. C'est vrai que j'étais, je dis très sincèrement, je suis fan d'Eric Emmanuel Schmitt au départ, avant de le rencontrer. Et quand il a été touché par ma pièce, ça m'a assez bouleversé.
Et en tant que metteur en scène d'ailleurs, alors comment vous analysez son succès au théâtre ? Qu'est-ce qui fait que les pièces d'Eric Emmanuel ont un tel succès, pas seulement en France ?
Parce que ça raconte l'humain, ça croit en l'homme, ce sont des histoires d'amour.
C'est vrai qu'on vous dit toujours humaniste.
Mais ce sont des
écrivain,
d'amour,
auteur humaniste.
Bah oui, ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Oui, parce que je cherche l'humain au-delà des différences de religion, des différences d'origine, et des différences de classe sociale, etc. C'est l'humain. Je pense qu'on partage tous. ce mystère qui est d'être au monde, ce mystère qui est d'apprendre à aimer, est-ce qu'on en est capable ou pas, ce mystère de chercher son soin dans l'existence. Et quand je vois effectivement que je suis au Japon, à Tokyo, et que je vois que les gens rient au même endroit en regardant une pièce, ou que la jeune femme qui est devant moi pose la tête sur l'épaule de son mari au même endroit qu'à Paris, au Théâtre Marigny, je me dis, on se ressemble, on a quelque chose en commun, on a des questions en commun. Mais Jean-Philippe, il fait partie de ces humanistes. Vous allez découvrir les pièces qu'il va faire dans les années qui viennent. Moi, je les ai lues à l'avance. La famille Ortiz bientôt et le petit coiffeur ensuite. Il y a cette même amour de l'humain, de la complexité humaine. C'est-à-dire, au fond, d'aborder le sujet de tragédie sur le mode de la comédie, ça suppose un vrai amour de la complexité humaine.
Et puis, il a l'avantage sur vous qu'il y a déjà une rue Daguerre alors qu'il n'y a pas encore de rue Schmitt.
C'est ça.
Voilà, j'ai bien profité de ça.
J'y pense souvent. Je dis, le salaud, il a déjà sa rue. Et en plus, elle est chouette, ta rue.
C'est vrai qu'elle est très sympa, elle est comme moi.
Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission et de cette balade. Le soleil brille, on voit la pyramide, on voit le Louvre, on voit même la Tour Eiffel. Pour quelqu'un qui n'habite pas Paris, c'est l'endroit idéal, hein, Jean-Philippe Daguerre.
J'habite à Paris maintenant, quand même.
Ah, quand même.
Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Je suis arrivé à 19 ans, j'avais jamais vu Paris de ma vie. Et je suis vraiment le provincial qui monte à Paris, mais ça avait quand même...
Et c'était quoi la première impression ?
J'ai adoré. J'en avais besoin. J'en avais envie. Non, j'étais impressionné, mais j'ai dit, waouh, c'est super. Je me dis, pourquoi j'ai mis autant de temps avant de venir ici ?
J'ai l'impression que tu es toujours étonné par Paris.
Ah ouais, c'est une ville que j'adore quitter, et puis elle me manque très, très vite. C'est très complexe, hein. C'est comme une histoire d'amour. Hein. On a besoin de prendre un peu d'air, et puis on se rend compte de ce qui nous manque après, une fois qu'on est un petit peu parti, quoi. Non, c'est... J'aime Paris.
Eh bien, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'en profite pour remercier le Café de la Paix, la manifestation de la CGT que nous avons traversée tout à l'heure, le Café Marly, Jean-Philippe Daguerre.
Merci.
Et vous, Eric Emmanuel Schmitt, de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Je rappelle que Félix est La Source Invisible, votre nouveau roman appartenant au cycle de l'invisible, c'est le 8e volet, mais tous peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Donc Félix est sorti aux éditions Albin Michel, auquel vous êtes fidèle depuis toujours maintenant.
Oh, ça vient de la paresse, de la fidélité.
Merci, bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine à 11h.